France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Avec quoi Emmanuel Macron va-t-il rentrer de Chine? Pas une promesse de peser sur la Russie pour faire la paix en Ukraine, ça c'est déjà non. Avec un rééquilibre de nos relations commerciales, c'est à voir, nous en parlons avec notre invité. Pourquoi les Européens se déchirent-ils sur les avoirs russes gelés? Vous le saurez quand Frédéric Seyss aura remis le monde à l'endroit. Le reportage est en Syrie, 4 jours avant l'anniversaire de la chute de Bachar el-Assad, avec les enfants des rues laissés orphelins par la guerre, qui tiennent parfois avec des pilules de Captagon, la drogue qui a envahi toute la Syrie.
Il m'a dit, prends ça, ça te fera tenir une semaine sans dormir. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir l'impression que quelque chose de grave allait m'arriver. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux arrêter.
Un reportage de Manon Chaplin à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le Japon et une princesse qui secoue un peu l'étiquette stricte à mourir de la famille impériale. Et puis juste avant 19h, la tech la première. Savez-vous sur quoi on parie en ligne sur Polymarket? Et bien sur les avancées et les reculs des armées russes et ukrainiennes. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. C'est Xi Jinping ce matin, lors d'une déclaration commune avec Emmanuel Macron, et il dit ceci: la Chine continuera à jouer un rôle constructif dans une solution à la crise ukrainienne, mais s'oppose fermement à toute tentative irresponsable visant à rejeter la faute ou à diffamer quiconque. Bonsoir Alice Ekman.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de la recherche à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Vous êtes spécialiste de la Chine, bien sûr, et autrice notamment de « Dernier vol pour Pékin », réédité en poche, c'est Flammarion, c'était l'année dernière. Alice Ekman, il y a deux volontés affichées dans ce voyage d'Emmanuel Macron: rééquilibrer les échanges commerciaux, bien sûr, on y reviendra, et donc essayer de pousser la Chine à influencer dans le bon sens son allié russe. Sur le point 2, l'Ukraine, donc, il semble que la Chine ait déjà fermé la porte. C'était sec, c'était sans appel, mais aussi sans surprise peut-être, non?
Oui, alors on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de
d'avoir essayé.
D'avoir essayé, et c'est ce qu'il avait déjà fait en 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit qu'il comptait sur la Chine pour amener la Russie à la raison. Voilà, il essaye à nouveau aujourd'hui, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Hein. La Chine et la Russie n'ont cessé de consolider leur rapprochement depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Les deux premières années, ils ont augmenté leurs échanges commerciaux de près de 20%. La coopération énergétique se renforce. Même si la Chine négocie dur, elle vient de négocier durement le gazoduc Force de Sibérie 2, enfin le contrat lié. La Chine soutient indirectement l'effort de guerre russe en exportant des composants qui servent donc à son armée. Et la Chine surtout a tout fait pour que la Russie ne soit pas un État paria, en maintenant le pays dans les organisations internationales telles que l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS. Alors sans aller trop dans les détails diplomatiques, bien sûr que le rapprochement est fort et il doit être analysé sur le long terme, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est prête à payer le prix en termes d'image d'un rapprochement avec la Russie, mais aussi le prix économique, parce qu'aujourd'hui la Russie est la 11e puissance économique mondiale, alors que le marché européen est très important pour la Chine. Donc les Européens sont insatisfaits de la position chinoise depuis la guerre en Ukraine, mais étonnamment la Chine ne se distancie pas de la Russie parce qu'elle veut faire front commun contre l'Occident, et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que la Chine nous considère, nous Français, mais aussi Européens, comme des Occidentaux. Et dans ce contexte-là, elle
considère comme des ennemis d'ailleurs ou comme des adversaires, c'est quoi le mot adéquat?
Oui, des rivaux, en tout cas, elle nous considère comme une menace. Ça paraît étonnant, hein, parce que mais c'est la réalité, une menace, compte tenu de notre système démocratique, compte tenu de notre propension à parler des droits de l'homme de temps à autre, compte tenu de nos divergences sur la mer de Chine du Sud ou sur la situation à Taïwan, au détroit de Taïwan, et compte tenu tout simplement de notre alliance de sécurité avec les États-Unis, et aussi compte tenu du fait que l'on soutient l'Ukraine l'Ukraine et qu'on a imposé des sanctions à la Russie, sanctions et que la Chine a très fortement condamnées depuis le début. Hein, de
après,
leur
c'est intéressant, Alice Eggman, parce que on comprend effectivement l'intérêt de Pékin à soutenir la Russie, et vous nous l'expliquez très bien, c'est au fond l'opposition à l'Occident, point.
Ouais.
Et en même temps, c'est presque un soutien du bout des lèvres, parce que quand vous le dites, ils fournissent des composants, mais ils fournissent pas de quoi écraser l'Ukraine non plus. Donc on a l'impression aussi quand même qu'il avance sur un fil, Xi Jinping. Alors, il est toujours du même côté du fil, on est d'accord, mais quand même sur un fil.
Non, mais vous avez raison de nuancer, parce que la Chine ne soutient pas la Russie de la même manière que la Corée du Nord le fait, ou l'Iran. Ces deux pays-là soutiennent militairement par l'envoi d'équipements militaires, voire même de soldats, dans le cas de la Corée du Nord, à la Russie. Donc c'est un soutien plus direct, plus visible, plus significatif. Ce n'est pas le cas de la Chine. Ceci dit, la Chine, par l'augmentation des échanges commerciaux, permet de maintenir l'économie russe à flot. Mais vous avez raison qu'il y a des points de divergence entre les deux pays. Par exemple, la Chine il y a des divergences sur l'aspect nucléaire. Quand la Russie menace d'utiliser l'arme nucléaire, bien sûr que la Chine n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais la grande tendance, et c'est ça qui est intéressant de prendre en compte, c'est quand même le rapprochement très fort. Et c'est vrai que le soutien de la Chine pèse beaucoup, même s'il est de différentes natures que celui de la Corée du Nord ou de l'Iran. C'est un soutien plus important parce que c'est la deuxième puissance économique mondiale et qui est une puissance diplomatique, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une puissance nucléaire, enfin tout ça, on le sait. Et donc c'est vrai que la Chine pourrait peser sur la position russe, en tout cas.
Elle pourrait au moins assouplir, mais on sent bien qu'elle n'a pas.
C'est la question.
Elle n'en a pas envie, ouais.
Voilà, la vraie question, finalement, c'est celle de volonté ou capacité. Parce que là, pour revenir à la visite, Xi Jinping a répondu à Emmanuel Macron, en substance, j'ai pas la citation devant les yeux, mais après les déclarations qui nous sont rendues publiques maintenant, alors que la visite a toujours lieu,
bien sûr.
Il faut faire attention, mais il disait en substance que la Chine n'est pas en mesure d'orienter la Russie sur ce sujet-là.
Mais mon
analyse, c'est que la Chine n'a pas la volonté de le faire, parce qu'elle considère que cette pression serait illégitime sur la Russie, qui est un partenaire stratégique pour faire front commun contre l'Occident.
Après, les mots d'Emmanuel Macron, je les ai trouvés intéressants, parce qu'au milieu de l'allocution, dans sa bouche à lui, il dit « Nous avons longuement parlé de l'Ukraine avec Xi Jinping, en parlant de la Russie comme une menace vitale pour la sécurité européenne », fermez les guillemets. On comprend très bien pourquoi il le dit, on comprend très bien ce que ça veut dire, mais vous venez de nous expliquer à quel point ça n'avait aucun poids dans l'esprit de Xi Jinping, et peut-être même l'inverse d'ailleurs, menace vitale pour la sécurité européenne, débrouillez-vous. C'est un peu ça qui nous dit aussi, après tout, puisque on est rivaux, débrouillez-vous avec votre sécurité, non ?
Il faut bien se rappeler que la Chine, dès le début de la guerre, a repris les éléments de langage, la communication russe, sur les provocations de l'OTAN, et que la Russie, finalement, une communication qui légitimait finalement une réponse ou l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Et la Chine aussi a communiqué, les médias d'État chinois ont largement communiqué sur la soi-disant présence de laboratoires américains biochimiques, d'armes biochimiques sur le territoire ukrainien, alors qu'on savait pertinemment que c'était faux. Donc, tout est inversé, si vous voulez. Les perceptions sont inversées, et au plus haut niveau. C'est-à-dire que là, on a deux dirigeants qui échangent, qui essayent chacun de défendre leurs intérêts. Je pense que les dirigeants français essayent de le faire au mieux. Sauf que les perceptions, c'est diamétralement opposé. Perception des menaces, mais aussi perception des sources du conflit et de la cause. Et d'ailleurs, la Chine aime bien toujours rappeler qu'il faut traiter le root cause, la cause initiale profonde du conflit, c'est-à-dire en gros la présence occidentale, la présence de l'OTAN en Europe, la présence américaine. Et donc, bien sûr qu'on a des visions diamétralement opposées, et qu'à mon avis, il est quand même difficile d'amener la Chine à la table des négociations comme médiateur dans cette période de négociations en cours, parce que la Chine clairement soutient la vision russe du conflit.
Malgré tout, Emmanuel Macron est en Chine, et avec donc un autre agenda qui est lié à la situation économique et surtout au déséquilibre. Est-ce qu'il y a un trou de souris ? Est-ce que c'est ça qu'on cherche en fait ? C'est un trou de souris pour nous, la France, et peut-être pour nous, l'Europe, entre les deux grands blocs qui en ce moment se regardent vraiment en chien de faïence, que sont la Chine ou les États-Unis. Est-ce que c'est ça qu'il faut viser ? Est-ce que ça n'a pas de sens et ça n'intéresse pas les Chinois ?
La troisième voie, c'est ça que auquel vous faites référence ?
Enfin, j'en sais pas. Est-ce qu'il y en a une, en fait ? Est-ce
que
c'est ça qu'on vise ?
Pour moi, ça n'a pas trop de... En fait, ça ne colle pas avec les rapports de force actuels.
Mais donc, ça sert à... Parce que c'est la question que je me posais, vraiment. On sait bien que la Chine nous tient de toute façon de la tête et des épaules, l'industrie, l'énergie, les terres rares, l'innovation, les molécules de nos médicaments. Donc, en fait, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'il vient faire, Emmanuel Macron, en fait ? Qu'est-ce qu'il va en retirer de tout ça ?
Non, mais c'est vrai qu'il y a des pressions de toutes parts et que la position de la France aujourd'hui n'est pas facile. Et la position, elle doit être européenne, donc plus unie, plus coordonnée. Et là, je pense qu'il y aura une tentative, alors qu'il y aura d'autres dirigeants européens qui vont se rendre en Chine prochainement. Le dirigeant allemand, le dirigeant aussi britannique, même si ce n'est pas l'Union européenne, mais il y a des dynamiques, des tentatives pour davantage peser dans les négociations, dans cette grande période de tensions commerciales. Parce que c'est vrai qu'en fait, les tensions commerciales sino-américaines ont des conséquences directe sur les tensions commerciales, sur les rapports commerciaux entre la Chine et l'Europe, notamment avec l'arrivée sur le marché européen d'un grand nombre de colis de produits bon marché qui ne sont pas écoulés sur le marché américain. Donc bien sûr que tout marche en vaste communiquant, si vous voulez, rien n'est, on ne peut pas isoler les tensions. Mais quand je disais que ça ne représente pas les rapports de force actuels, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est pas parce que la France ou l'Europe s'est rapprochée de la Chine que les États-Unis seraient plus cléments dans le matière commerciale ou de négociation pour réduction des taxes douanières, etc. On l'a déjà vu, les négociations sont dures. Et deuxième chose, la troisième voie, c'est-à-dire une Europe qui se positionnerait entre la Chine et les États-Unis, ça voudrait dire qu'il n'y a pas le pôle russe, c'est-à-dire que ça sous-estimerait, de mon point de vue, ce rapprochement Chine-Russie qui est structurant et qui modifie les rapports de force, d'autant plus que la Chine est dans une dynamique de coalition. Mmh. C'est-à-dire que la Chine considère que pour faire face aux États-Unis, il faut avoir des pays qui se fédèrent autour donc, du leadership chinois pour faire front commun contre l'Occident. Donc ce n'est pas uniquement la Russie. Tout à l'heure, on a parlé de la Corée du Nord, de l'Iran. Tout cette dynamique-là, la Chine l'accueille avec enthousiasme, mais aussi elle se tourne surtout vers ce qu'on appelle maintenant les pays du Sud, mais aussi les pays émergents. Et donc dans ce contexte-là, on a des tensions transatlantiques fortes, alors qu'en face, on a une dynamique de coalition qui doit être prise au sérieux parce qu'elle commence à peser lourd et à échanger, à diffuser des normes et des standards qui sont structurants.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en train de vraiment de perdre notre place, en fait? Mais réellement, de toute façon, malgré notre grand marché à 450 millions de personnes, de toute façon, on n'intéresse pas la Chine pour dessous parce que, comme vous le dites, elle a de nouveaux marchés, elle a toute sa géographie d'Asie du Sud-Est, etc. Et au fond, tout ce qu'elle attend, elle reste polie avec nous, mais elle n'attend rien de nous, en fait.
Donc, elle ne mise pas trop sur nous. Alors, l'Europe ne fait pas rien. Hier, par exemple, la Commission européenne a publié une doctrine sur la sécurité économique, notamment pour être moins dépendant des terres rares chinoises. Donc, il y a des stratégies, il y a des réflexions qui sont actées. Il y a aussi des décisions qui sont prises sur les taxes sur les petits colis d'origine extra-européenne visant à limiter la concurrence des produits chinois. Ça a été adopté notamment aussi à l'Assemblée nationale le 20 novembre. Donc, il y a des dynamiques au niveau national et au niveau européen. Le marché européen reste important. C'est un marché qui pèse. Mais il faut bien prendre acte de la perception qu'a la Chine de l'Union européenne. C'est une perception qui est de plus en plus anti-occidentale, hostile, qui est motivée par une logique qui n'est pas strictement économique, qui est géostratégique, qui est, j'ose le dire, idéologique. Et dans son contexte-là, je pense qu'il est plus facile et plus intéressant stratégiquement de se tourner vers des pays qui partagent nos objectifs et aussi nos valeurs économiques ou politiques. Je pense par exemple à certains pays d'Asie de l'Est comme le Japon, la Corée, certains pays américains comme le Canada et autres, parce qu'il y a des dynamiques de coalition qui, en tout cas, il faut créer une dynamique de coalition européenne et supra-européenne qui puisse peser, mais c'est pas avec la Chine que ça pourra se faire, parce que la Chine ne nous considère pas comme des partenaires prioritaires dans sa propre dynamique de coalition. Je ne sais pas si je suis claire.
Vous avez été parfaitement claire. Et c'est clair, il reste deux jours à ce voyage et quand je vous écoute, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant deux jours? Merci mille fois, Alice Ekman.
C'est pas facile, mais merci à vous.
C'est vrai, merci vraiment pour ce passage dans Un jour dans le monde. La suite, c'est vous, Frédéric Saïs, qui remettez le monde à l'endroit.
Et ce sont près de 200 milliards d'euros. Faut-il utiliser les fonds russes gelés en Europe pour aider l'Ukraine?
C'est juste après ça. Let this world get a little too Wolf Alice, Just Two Girls. Vous les connaissez, ces deux filles qui sont passées d'une grunge au disco. Elles sont dans la playlist d'Inter. Frédéric Saïs remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Frédéric, l'utilisation des avoirs russes gelés divise les pays européens.
Et on ne connaît pas encore le menu du dîner demain soir, mais on sait déjà que l'ambiance sera électrique. Autour de la table, le dirigeant allemand Friedrich Merz et le chef du gouvernement belge, Bart De Wever. Ce dernier a déjà averti ses collègues européens. Malgré leur pression, c'est non, non et non. Le Belge refuse que les fonds russes gelés en Europe soient utilisés pour aider les Ukrainiens. L'Allemagne, au contraire, veut mobiliser ses 200 milliards d'euros placés sous sanctions depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Voilà pourquoi le chancelier allemand se déplace tout spécialement à Bruxelles pour ce dîner. Décidé au dernier moment, Friedrich Merz annule sa visite prévue en Norvège. Il y a visiblement urgence à faire changer d'avis ce récalcitrant Premier ministre belge.
Mais alors pourquoi ce Premier ministre belge a-t-il autant de poids dans cette affaire ?
Eh bien parce que les avoirs russes sont gelés chez lui, en Belgique. Plus précisément, ils sont immobilisés dans les comptes d'une société établie à Bruxelles qui s'appelle Euroclear. Euroclear, c'est une sorte de coffre-fort où sont stockés des actifs financiers du monde entier, dont 180 milliards d'euros qui appartiennent à la Banque Centrale de Russie. Alors évidemment, c'est un sacré magot qui intéresse les pays européens. Au moment où ces pays doivent allonger de l'argent pour aider Kiev, le budget ukrainien qui vient d'être voté est en lourd déficit, budget qui requiert une aide internationale. Or, les pays européens, notamment la France, mais pas seulement, sont déjà lourdement endettés, d'où l'idée d'utiliser ces dizaines de milliards d'avoirs russes en faveur de l'Ukraine.
Sauf que ça pose de nombreuses questions juridiques.
Oui, une confiscation pure et simple de ces milliards serait illégale, tous les experts s'accordent sur ce point. Or, c'est la Belgique qui serait poursuivie en justice par la Russie, c'est le gouvernement belge qui devrait rembourser ces presque 200 milliards d'euros, ce qui représente un quart du PIB chez nos voisins. Voilà pourquoi le Premier ministre belge n'est pas chaud du tout, il réclame des garanties juridiques, il veut que tous les autres pays européens se portent caution, s'engagent à rembourser si jamais les tribunaux internationaux donnaient raison à Moscou. Alors la Commission européenne tente de trouver un compromis. Proposition présentée hier, les actifs russes seraient non pas confisqués, mais simplement prêtés à l'Ukraine, qui devrait ensuite les rembourser si une paix était signée. Et de son côté, pour revoir son argent, Moscou devrait verser des indemnités de réparation aux Ukrainiens. Alors cette solution est-elle plus solide juridiquement ? Pas si sûr, en tout cas pour le gouvernement belge. En tout cas, ce n'est pas sûr, il n'est pas convaincu et il met en garde contre une déstabilisation financière de toute la zone euro.
C'est-à-dire ?
La Belgique estime que toucher aux fonds russes, eh bien ça pourrait effrayer les investisseurs du monde entier. Les capitaux chinois, saoudiens placés en Europe, par exemple, pourraient craindre d'être eux aussi un jour gelés et utilisés au gré des aléas géopolitiques. Les 27 veulent donc éviter toute fuite des capitaux, toute crise de confiance, d'où ces discussions très sensibles, très techniques aussi. Elles seront d'ailleurs au menu du prochain sommet européen, exactement dans 2 semaines. Et là, les dirigeants devront trancher. Le dîner de demain soir à Bruxelles n'est donc qu'un hors-d'œuvre.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Syrie. Ce soir, à 4 jours du premier anniversaire de la chute de Bachar el-Assad, la Syrie où la plupart des gens vivent sous le seuil de pauvreté, ce sont désormais aussi des milliers d'enfants que la guerre a séparés de leurs parents, qui vivent dans la rue, survivent surtout de débrouilles et de petits boulots. Selon un rapport tout récent, un enfant sur 3 en Syrie, qu'il ait une famille ou non, aurait besoin d'une aide psychologique urgente, quand 90% d'entre eux n'ont même pas accès à une alimentation suffisante. Dans un état qui peine donc encore à se mettre debout, dans une économie exsangue, ruinée, pour ces enfants de la rue, la chute de la dictature n'a rien changé, ni ne leur laisse d'ailleurs entrevoir de perspective. Et le reste, c'est Manon Chaplin qui raconte.
C'est derrière les murs d'un immeuble désaffecté que Meissam, 15 ans, a dissimulé son lit, un maigre matelas en mousse posé à même le sol. Avec une dizaine d'autres enfants, il vit ici depuis 5 ans.
Quand je suis arrivé dans la rue pour la première fois, j'ai tout de suite rencontré mes amis et nous avons commencé à dormir ensemble dehors. Pour la plupart, Leurs parents ont été tués durant la guerre. L'un d'eux nous a dit qu'il y avait du travail ici. Alors nous sommes tous venus. Depuis, on n'a pas bougé.
Des garçons, tous mineurs, que la guerre a laissés orphelins, que la rue a fini par rassembler. Comme la plupart des enfants qui errent dans ce quartier, la journée, Meïssam ramasse des déchets, 1000 livres syriennes, soit 90 centimes d'euros le kilo de plastique. À peine de quoi s'acheter à manger.
On se traite comme des frères et des sœurs. Si l'un d'entre nous n'a pas d'argent, je lui donne ce dont il a besoin. Il me rembourse ensuite. Je veux dire, c'est évident. Si l'un de nous a faim et n'a pas d'argent, je lui apporte à manger. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Sa vie de famille, Meïssam peine à en parler. Son père est mort dans un accident de moto lorsqu'il avait 7 ans. Sa mère s'est très vite remariée avant que son beau-père le rejette. Depuis, il a trouvé refuge ici, un hangar rouillé mis à disposition par son patron. À l'intérieur, des fils électriques rompus, des moteurs hors d'usage et un entrepôt devenu leur quartier général.
Voilà la mayo et le pain.
Voilà Bakar, 16 ans, un peu plus costaud que les autres. Il porte un marcel militaire et une large cicatrice sur l'épaule.
Un coup de couteau. Un soir, je me suis battu. On voulait me voler. Des jeunes hommes m'ont attaqué alors que je rentrais du travail.
Derrière son scooter, un barbu s'amuse à faire voler la poussière. Mohamed Koudreau, 23 ans, a été recruté ici il y a 2 mois par le patron pour protéger les enfants.
Je les protège du vol. Des voleurs qui viennent et les cambriolent. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Je reste ici. J'ai une arme, même des bombes.
Meïssam Bay dit qu'il est fatigué. Hier soir, comme chaque soir, il a acheté de la colle extra forte qu'il a dans un petit sac fait couler avant de renifler.
Ça te fait entrer dans un état différent. Je ne sais pas comment expliquer.
Il y a 2 mois, un homme un peu plus âgé lui a donné une pilule du Captagon, dit-il.
Il m'a dit, prends ça, ça te fera tenir une semaine sans dormir. Je l'ai prise. Et je suis resté sans dormir, longtemps. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir l'impression que quelque chose de grave allait m'arriver, que j'allais tomber malade ou quelque chose comme ça. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux arrêter.
Le Captagon a longtemps rempli les caisses du régime de Bachar al-Assad. Depuis sa chute, le gouvernement de transition a fait de la lutte contre ce trafic l'une de ses priorités, mais Meïssam n'y croit pas.
Beaucoup de jeunes en vendent et en achètent. Je les connais. Maintenant, ils ne se montrent plus. Ils se sont probablement fait prendre.
Parfois, Meïssam trouve refuge chez Noura. Elle a 40 ans, elle est veuve. C'est prise d'affection pour le jeune garçon. Alors que rien n'est fait pour ses enfants, les solidarités de quartier ont pris le pas sur le travail des autorités.
La plupart des gens ici me jugent. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un problème humain. Un enfant qui dort dans la rue, c'est un problème pour moi. C'est une catastrophe.
Noura caresse la chevelure brune de Meïssam, plonge un regard tendre dans ses yeux verts. Ce soir, Noura est fière. Ce soir, c'est Meïssam qui amène le repas.
Manon Chaplin, merci beaucoup. À lundi, Manon d'ailleurs, puisque lundi, jour anniversaire de la chute de Bachar el-Assad, le 18-20 sera en direct de Damas pour 2 heures d'émission spéciale dans la Nouvelle-Syrie et son voisinage. Allez. La suite, c'est l'info internationale passée sous les radars, rattrapée au vol par Guillaume Audin.
Sous les radars, le secrétaire d'État américain à la guerre rattrapé par la patrouille, le Pentagone que lui-même dirige.
Et la tech, la première, Stéphane Jourdain.
Comment des parieurs ont manipulé la carte de la ligne de front en Ukraine pour toucher 1 million de dollars.
Allez, à tout de suite les amis, faisons un petit tour par le Canada et la version du Temptation de Tom Waits par Diana Krall. Ça date de 2004, dites-moi. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist.
Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear.
Diana Krall et Temptation dans Un jour dans le monde. Guillaume Audin regarde sous les radars. Aux États-Unis, Guillaume, le désormais secrétaire à la guerre, attrapé 8 mois plus tard par sa bourde sur Signal et cette fuite improbable.
Improbable fuite et presque inespérée. Tant elle eut valeur de scoop pour ce journaliste Jeffrey Goldberg, patron de The Atlantic, qui s'est retrouvé sur une boucle privée, une boucle d'État sur Signal, la messagerie cryptée. C'est Pity Hexet qui l'avait ajouté, ce journaliste, par erreur, a-t-il dit. On ne sait ni comment ni pourquoi, puisque le secrétaire américain à la guerre a refusé de s'expliquer. Il s'est contenté d'une simple note écrite, remise à l'inspecteur général du Pentagone. Alors on s'en souvient tous, hein, c'était en mars dernier. Un journaliste s'est retrouvé aux premières loges d'une conversation confidentielle défense en compagnie de Marco Rubio, le secrétaire d'État, J.D. Vance, le vice-président américain. Les États-Unis étaient alors sur le point de bombarder le Yémen. Merci la confidentialité. Verdict sans appel du Pentagone ce jeudi. Pity Hexet a mis en danger l'armée américaine. Dans n'importe quelle démocratie, ça vaudrait une démission. L'intégralité du rapport sera dévoilée dans la soirée ce jeudi.
Le Congo va se contenter des miettes. Des miettes qu'il va avoir sur les pourcentages qui lui est destiné.
La ruée vers les minerais critiques du Congo et la voix de cet opposant qui alerte sur un méga-projet de Bruxelles et Washington dans la région.
Il craint que les intérêts de Kinshasa ne soient lésés dans cette affaire au profit des Européens, des Américains et du pays voisin, la RDC, l'Angola. Il y a là-bas en effet un méga-projet de réhabilitation d'une voie ferrée, le corridor Lobito entre l'Angola et le Congo, sur lequel circulent des trains chargés de minerais critiques, la matière première, la matière en dur de toutes ces intelligences artificielles dont nous parle chaque jeudi Stéphane Jourdain. Le Congo récupérera des miettes, je cite ce politique. Il a peut-être raison d'alerter les pouvoirs publics, mais à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes et d'enfants, ce sont 6500 habitants de Kolwezi, un petit village du sud de ce pays, une population qui risque tout simplement d'être déplacée sans compensation, victime très très à distance de la transition numérique mondiale. C'est l'ONG Global Witness qui alerte. Washington et Bruxelles ont investi 600 millions de dollars dans ce projet.
Et puis un saut pour terminer par le Japon, Guillaume. J'ai toujours voulu que la princesse Aiko soit couronnée, c'est ce que dit cette femme interrogée à Tokyo.
Oui, elle étouffe un rire presque timide, presque gênée, comme si elle brisait elle-même un tabou, cette femme âgée, en répondant aux journalistes. Faut-il, oui ou non, couronner la princesse Aiko au Japon? La réponse est non, en tout cas si l'on respecte la tradition. Oui, mais voilà, 24 ans tout juste, elle les a eu le 1er décembre. La fille unique de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako mène une vie moderne. Par exemple, elle travaille à la Croix-Rouge, c'est une figure très appréciée à tel point que de plus en plus de voix au Japon demandent son couronnement. Elle incarne cette jeune princesse Aiko, un bouleversement très subtil au sein de l'empire du pays du soleil levant. Peut-être un peu lassé cet empire par un patriarcat pesant. Réponse en 2006 après un débat parlementaire organisé par qui ? Par une femme également, Sanae Takaishi, certes conservatrice, mais à la tête en tant que première ministre de ce pays.
Allez, à suivre donc. Merci beaucoup Guillaume Oda. Le jeudi, c'est la chronique sur l'IA, garantie sans IA, qui aujourd'hui ne parle pas d'IA. C'est compliqué ma vie, hein. Voici Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18/20.
Stéphane, cette semaine, vous nous parlez de paris en ligne sur les avancées des troupes russes en Ukraine. On parle de millions de dollars en jeu et de manipulations qui ont une incidence sur la ligne de front en Ukraine, en tout cas sur la ligne de front virtuelle qui fait autorité.
Et oui, c'est une histoire qui signe son époque. Elle commence sur une plateforme de paris en ligne, Polymarket, fondée pendant le Covid par un jeune New-Yorkais de 21 ans, Shane Coplan, petit génie des crypto-monnaies, autodidacte, devenu 4 ans plus tard le plus jeune milliardaire self-made man de l'histoire selon Forbes. Polymarket, ça ressemble à un site de paris sportifs, sauf que vous pariez avec des crypto-monnaies sur tout et n'importe quoi, des centaines, des milliers de paris. Aujourd'hui, par exemple, la chanson la plus recherchée sur Google en 2025, probablement Taylor Swift, ou la prochaine personnalité de l'année Time Magazine, probablement Jensen Huang, patron de Nvidia. Mais vous pouvez aussi parier sur le nombre de missiles lancés par la Corée du Nord d'ici la fin de l'année, ou sur le retour de Jésus-Christ en 2025. Ça, Fabienne, c'est 0,5% de chance que ça arrive.
Mais c'est beaucoup 0,5 quand
c'est
on y songe. C'est pas mal.
J'aurais dit moins. Plusieurs dizaines de paris concernent la France. Le prochain maire de Paris, selon Polymarket, c'est Rachida Dati. Le prochain président, c'est Jordan Bardella. Ou tout simplement, est-ce que les bijoux du Louvre vont être retrouvés? C'est non.
Et pourtant, ce site, il est interdit en France.
Et oui, autorisé aux États-Unis depuis que Donald Trump Jr. a investi dedans il y a quelques mois, mais interdit en France depuis un an. Enfin, interdit, ça c'est la théorie. Jérémy Lebescon est un familier du site. Il travaille pour la plateforme de crypto-monnaie CoinShares.
En fait, c'est très simple de contourner cette interdiction. Il suffit en effet d'utiliser un VPN qui peut vous envoyer, je ne sais pas, même dans une juridiction européenne, aux Pays-Bas, et vous pourrez utiliser Polymarket. Et si vous gagnez un pari et que vous êtes sur le sol français, vous pourrez, même avec un VPN, retirer sans difficulté vos crypto-actifs.
Si vous pariez et que vous gagnez, Fabienne, vous n'aurez aucune difficulté à retirer vos stablecoins.
Eh bien, me voilà soulagé. Merci beaucoup. Et donc, le 31 octobre dernier, Polymarket a ouvert un pari qui concerne la ligne de front en Ukraine.
La Russie va-t-elle prendre la ville de Mirnorad avant le 15 novembre, 23h59 ? Voilà le pari. Mirnorad, ville voisine de Pokrovsk, qui vient de tomber cette semaine. Quasiment toutes les villes le long de la ligne de front font l'objet de ce genre de pari lugubre. Et ce n'est pas un drapeau sur l'hôtel de ville qui en décidera, mais la ligne de front virtuelle dressée par un think tank américain, ISW. La règle du pari est très claire, la ville sera jugée prise par les Russes si jamais l'intersection entre la rue Puatchova et la rue Soborna est conquise. Vous voyez, c'est très précis.
Donc comment s'y prend le think tank pour mettre à jour cette ligne de front ?
Vidéo publiée sur les réseaux sociaux, imagerie satellite, blog russe, reportages occidentaux, toutes les infos recoupées sont bonnes pour faire évoluer cette ligne de front en temps réel. On a appelé le fixeur de Radio France sur place, Yachar Fazilov, pour savoir si cette carte était fiable.
Désolé, je suis au volant. Écoute, attends, 30 secondes, on se gare et puis on discute un peu avec toi. T'avoue qu'on est un peu dans le jus, mais...
Il était justement en reportage à 30 km de la ligne de front avec notre collègue de France Info, Boris Loumagne.
C'est fiable en Ukraine. Il y a des gens qui consultent leurs analyses, leurs cartes, articles, etc. Et souvent, même parmi les journalistes aussi, c'est fiable pour utiliser pour leurs reportages, sujets, etc.
Pour les journalistes, cette carte est une source à part entière. Boris Loumagne.
Quand il y a eu l'annonce par la Russie de la prise de Pokrovsk, en regardant ISW, on a pu infirmer la position russe qui disait « c'est bon, on a pris Pokrovsk, c'est terminé ». En fait, non, pas vraiment, parce que voilà, ISW n'a pas confirmé, et l'état-major ukrainien non plus, et des témoignages qu'on a pu faire sur place non plus.
Mais puisqu'on y est, précisons que sur le terrain, notre équipe utilise aussi une autre carte, celle de Deep State.
C'est une carte en temps réel, en fait, un peu sur le style de Waze, si tu veux, alimentée par les gens qui sont sur le terrain. En plus, si tu veux, Deep State, tu peux voir même les numéros des unités russes qui sont derrière la ligne de front, des petits carreaux rouges.
Tu cliques dessus.
Tu cliques dessus, tu vois l'information, c'est quelle brigade, de quelle armée.
C'est encore plus précis que ISW. Mais en tous les cas, Deep State et ISW, c'est des sources vraiment sûres que à la fois les militaires et les journalistes et les Ukrainiens civils consultent quotidiennement, quoi.
Alors, on les embrasse, hein, Boris et Yachar, mais revenons quand même à notre pari. Stéphane, ça s'est fini comment ?
15 novembre dernier, le pari se clôture. Pour 99% des parieurs, Mirnorad ne va pas tomber. Mais juste avant la clôture du pari, alors que rien n'a changé sur le terrain, un éditeur fait évoluer la carte de quelques pixels, comme si la Russie venait de prendre le contrôle de la fameuse intersection. Hop, pari gagné. La suite, c'est le journaliste du média d'investigation 404 Média, Matthew Gault, qui nous la raconte. C'est lui qui a découvert cette histoire.
It was paid out.
Finalement, le pari a bien été payé. On le sait parce qu'il y a des traces de ce mouvement sur la blockchain. Tout ça, c'est automatique. Plus $1 million ont été versés au total. Ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de personnes qui ont gagné de l'argent grâce à ce pari. Finalement, la carte a été corrigée après le paiement du pari. Mais à ce moment-là, c'était trop tard. Polymarket ne pouvait plus rien faire.
qui a touché le million de dollars, qui a modifié la carte et pourquoi. ISW nous répond juste, il ne faut pas utiliser nos cartes à des fins de paris. Pour Mathieu Gault, les paris sur les tennis sont plus encadrés que ceux sur la guerre, et c'est bien ça le problème.
Imaginons que tu es un commandant russe ou ukrainien mobilisé sur la ligne de front. Tu vas pouvoir te faire de l'argent à court terme en fonction de l'issue d'une simple bataille. En fait, les incitations financières, ça y est, elles sont là maintenant. Et ça, je pense que c'est très grave. Ça peut changer les calculs que font les gens sur un champ de bataille. C'est une question de vie ou de mort.
Une question de vie ou de mort, on ne devrait jamais parier sur la guerre.
Tu m'étonnes, Stéphane Jourdain. Merci beaucoup. Je parie que vous reviendrez la semaine prochaine et ça coûte rien à personne. Merci beaucoup.